Bonjour, il y a une certaine diversité dans l'Afrique. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir joué le jeu de ce culte anniversaire. C'est vrai que l'idée n'est pas de vous présenter l'Afrique, que vous connaissez bien, mais de partager un message dont la trame est identique dans chacune des églises ce matin. Différentes personnes engagées à la fraise sont proposées, il y a des échanges de chairs et en principe, une trame, un message commun ce matin. Un message que nous allons commencer en lisant dans la Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 3, l'appel d'Abraham. Des questions d'organisation. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On connaît cette histoire, le début de la révélation où Dieu, malgré les péchés récurrents de l'espèce humaine, le déluge, la tour de Babel, trouve encore des hommes fidèles. Et après le père d'Abraham, qui avait déjà obéi à un appel, parle à Abraham et lui lance cet appel personnel, mais cet appel aussi familial. De partir, de tout laisser, d'aller très loin, fonder une grande nation avec des conséquences, des risques, des renoncements. Il avait une situation aisée là-bas à Charan. Je suis pas très théologien, je pense qu'on dit Charan ou Caran, mais quelque part là-bas, en haut, près de la frontière syrienne actuelle. Et partir pour des mois de marche dans le désert, s'établir un nouvel endroit. Mais derrière cet appel, il y avait une promesse. Donc c'est un but déjà. Aller dans un autre pays pour établir l'alliance avec le Seigneur et des promesses de bénédiction. Le mot bénédiction est dit 5 fois dans ces 3 versets. Mais pour saisir cette promesse, ces bénédictions, Abraham devait obéir, il a dû être actif. S'il était resté à Charan, j'imagine que Dieu aurait trouvé une autre solution, mais l'histoire du salut aurait été différente. Abraham a dû renoncer à son confort, à sa sécurité. Établir une grande nation, mais j'ai 75 ans et je n'ai pas d'enfant. Puis j'imagine qu'à l'époque, les femmes avaient tendance encore à obéir à leur mari. La mienne est au fond, voilà. mais malgré tout, je pense que dans la tente conjugale, l'enthousiasme au départ n'a pas dû être grand. Quoi ? Partir ? Tout laisser ? 3 mois dans le désert ? On ne sait même pas où on va ? Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que Abraham a relevé la mission, le défi de cette mission que Dieu lui donnait. Dieu confie une mission. Se rendre dans un pays inconnu pour former une grande nation. Finalement, c'est très simple. On se prend des fois la tête dans nos églises pour trouver la vision, la mission, l'objectif, le truc, le machin. Se rendre dans un pays inconnu pour former une grande nation. Allons-y. Nous savons que les promesses et bénédictions faites par Dieu à Abraham se sont réalisées, se sont concrétisées par la venue de Jésus-Christ. Et que par ricochet, c'est nous maintenant qui en sommes devenus à la fois la réalisation et les bénéficiaires. Cette grande nation, c'est l'Église universelle. Cette bénédiction, c'est d'abord le salut en Jésus-Christ. Donc merci à Abraham d'avoir obéi, d'avoir été actif et d'avoir accompli sa mission. Cette bonne nouvelle de l'Évangile annoncée, comme ça, on va dire partiellement ou par anticipation, Abraham, accomplie en Jésus-Christ, c'est à l'Église, c'est aux chrétiens de l'accomplir. Notre mission est de proclamer l'Évangile. Nous allons le voir dans le second texte du jour. En Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20, donc la fin de l'Évangile de Matthieu. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On retrouve beaucoup de similitudes entre l'appel originel, on va dire, donné à Abraham, et cet appel de Jésus-Christ donné à ses disciples, et ensuite à tous ses disciples, à tous les chrétiens au fil du temps. D'abord, ça ne concerne pas que les personnes qui l'entendent, parce que là aussi, allez, faites de toutes les nations des disciples, ben, il faut partir, il faut changer, il faut prendre sa famille avec, ça secoue, ça concerne plus que les personnes directement concernées. Et puis, toutes les nations, c'est loin, comme Canaan était loin pour Abraham. Mais il y a cet appel, je veux revenir à cet appel dynamique. Allez, faites, baptisez, enseignez. Il y a peu de théorie si on veut accomplir ces versets. Ce sont vraiment des verbes d'action. Comme pour Abraham, c'est impliquant, ça demande de sortir de sa zone de confort. Et cet appel, il est très haut dans les priorités fixées par Jésus-Christ, c'est l'appel fondateur de la proclamation de l'Évangile, du futur après son départ. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle et devons la transmettre. Paul reprend d'ailleurs cet appel en Romains 10. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Voilà, il y a un appel à être actif et à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il y a aussi des promesses, comme pour Abraham. Il y en a deux, ici. La première, c'est que celui qui nous fait cette promesse, enfin, qui nous lance cette mission, pardon, Jésus-Christ, il est légitimé pour le faire parce que tout pouvoir lui a été donné. Donc le pouvoir de Jésus-Christ accompagne, sous-tend, donne la force de réaliser cet appel, cette mission. Mais surtout, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse de la présence permanente de Jésus-Christ donne à l'Église sa légitimité. Notre mission, elle est inspirée par Jésus-Christ. Elle ne vient pas d'un leader ponctuel plein d'enthousiasme qui nous amène ici ou là. C'est la légitimité de la présence de Jésus-Christ avec nous jusqu'au dernier, jusqu'à la fin du monde, qui nous permet de nous mettre en route dans cette mission d'annoncer l'Évangile. Et c'est parce que, oui, c'est par cette présence de Jésus, je me répète, qu'il a l'autorité de nous envoyer vers toutes les nations faire des disciples. Voilà, jusque-là, je ne vous ai pas appris grand-chose. J'imagine que vous avez déjà entendu parler une fois de l'appel à proclamer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Et puis, j'imagine chacun d'entre vous a pris une part de cet appel en essayant d'être témoin, en essayant de réaliser concrètement, selon chacun selon nos moyens, cette mission prioritaire. Mais où en sommes-nous globalement 2000 ans après ce passage de Matthieu? La mission donnée par Jésus-Christ, elle a été accomplie sur certains plans. La plus grande partie des nations a été atteinte par l'Évangile. La Bible a été traduite en je ne sais combien de langues. Il reste quelques peuplades non atteintes du tout, et il reste toute la problématique du monde islamique. Mais le christianisme est quand même devenu la plus grande religion sur Terre, même si elle est loin d'être majoritaire. Donc, l'Église n'a pas que dormi pendant 2000 ans, heureusement. En même temps, l'Évangile est en recul, en tout cas sur un continent, et on va plutôt s'intéresser à nous qu'aux autres ce matin, l'Évangile est en recul sur un continent, l'Europe. L'Europe était chrétienne, de culture, mais aussi de conviction. Pour la majorité de la population pendant beaucoup de siècles. Cette conviction chrétienne se vivait à des degrés différents, mais elle était sincère. Nous sommes maintenant dans une nouvelle phase. On parle de la société post-chrétienne en Europe. Être chrétien n'est plus la norme. C'est tout au plus une référence culturelle, et encore, on rajoute, mais il y a aussi l'islam, et puis Bouddha, etc., on noie, on syncrétise, tout ça un petit peu. L'individualisme a pris le dessus. On recommande à chacun de faire ses choix en fonction de ses sentiments, de sa situation du moment, mais surtout de bien respecter les choix des autres, parce que tous les choix ont la même valeur. Il n'y a plus beaucoup de dénominateurs communs. Il y a aussi une société qui a évolué avec le matérialisme vers le bien-être matériel, un bien-être matériel qui cache souvent beaucoup de misère spirituelle. La population a été brassée, en Suisse encore bien plus qu'ailleurs. Les couches sociales sont nettement plus différenciées qu'il y a quelques dizaines d'années. Ces changements, vous les connaissez bien, c'est notre réalité, c'est la réalité de notre pays et du reste de l'Europe. Et le rôle de l'Église dans cette société a beaucoup changé. Il y a 50 ans, il y avait peut-être 1% d'évangéliques parmi peut-être 70% de chrétiens. Ces chiffres n'ont pas de valeur précise scientifique, mais les ordres de grandeur sont à peu près ça. Maintenant, au bonheur, nous sommes probablement 3-4% d'évangéliques en Suisse, mais parmi 10 ou 15% de chrétiens. Donc, il reste beaucoup de potentiel, et globalement, comme je le disais, le christianisme est en recul en Europe. Il y a d'ailleurs, malgré toutes les prédications sur l'annonce du salut, il y a beaucoup plus de chrétiens qui changent d'église que de non-chrétiens qui se convertissent. On va un petit peu à gauche, à droite, en fonction de nos affinités du moment. Et ce constat pas très glorieux, nous amène au thème du jour. L'Église missionnelle. Là, j'espère que je vous apprends quelque chose. C'est un terme, j'ai cherché, qui n'existe pas dans le dictionnaire, qui pourrait en fait, l'Église missionnelle, être le titre de cette prédication. Que veut dire missionnelle ? Terme qui a été un peu inventé, avec probablement aussi un petit effet mode, ça permet à des consultants ou à des grands théologiens d'écrire quelques livres et de se faire connaître. Mais plus sérieusement, missionnel, c'est... Je me perds dans mes propres notes. Missionnel, qui vit et accomplit sa mission. Vous me direz, c'est exactement comme un missionnaire. C'est exactement comme quelqu'un qui reçoit une mission et qui l'accomplit. C'est tout à fait juste. Mais dans notre inconscient collectif, le missionnaire, il va au loin. Donc on veut parler d'église missionnelle pour parler d'être auprès. C'est uniquement pour ça que ce terme a été inventé, mais que je vais garder l'église missionnelle. L'église qui vit et accomplit sa mission auprès. Être missionnel, c'est vivre et incarner la mission que Dieu nous a confiée chez nous, autour de nous. Cette mission de proclamer l'évangile du salut. Nous savons tous que nous devons être des témoins, nous essayons tous de l'être, on l'a vu tout à l'heure, mais l'appel d'Abraham, l'appel du Christ, il va plus loin. Apporter l'évangile pour faire une différence. Apporter l'évangile pour que le nombre de personnes sauvées soit plus élevé demain que hier. Apporter l'évangile jusque, comme est dit dans Matthieu, jusqu'au bout de la terre, faites de toutes les nations des disciples, et le bout de la terre, il commence devant notre palier de porte. Il y a des risques, il y a un coût, comme pour Abraham, comme pour les disciples du temps de Jésus, mais il y a aussi des promesses de bénédiction. Cette promesse que Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde, nous pouvons nous appuyer, elle nous donne confiance pour notre mission missionnelle. Je vais reprendre un petit peu l'exemple du missionnaire, le missionnaire qu'on a en tête. À Launay, on soutient en particulier deux missionnaires, Marianne Brockville et puis Laurence Moret. Donc je vais un tout petit peu prendre des exemples de Marianne Brockville parce que je les connais. Je sais qu'ici, vous avez aussi des missionnaires que vous soutenez en particulier. Vous pouvez très très bien traduire mes exemples. Un missionnaire comme Marianne, c'est quelqu'un qui a eu un appel personnel, beaucoup plus grand que simplement être témoin, et puis qui s'est préparée. Elle s'est préparée professionnellement, une formation technique, une formation médicale dans le cas particulier, une formation biblique, une formation de langue. On ne débarque pas au Népal, puisqu'elle est au Népal. On ne va pas sur une tasse de village dans une vallée quelconque du Népal pour dire trois phrases sur la place publique et imaginer qu'on peut être missionnaire comme ça, surtout si les phrases, on les dit en français. Donc, il a fallu apprendre des langues. Elle a étudié son public cible. Elle a trouvé des œuvres qui travaillaient déjà, avec lesquelles collaborer sur place. Elle a réfléchi aux besoins. Quels sont les besoins au Népal de cette région vers laquelle Dieu m'appelle ? Souvent, dans l'histoire missionnaire, les besoins ont été dans l'enseignement ou dans le médical. Parfois, ça a été des besoins purement... On pouvait proclamer le salut dès le départ parce que le cœur des gens cherchait une assurance du salut. Mais souvent, il faut apporter d'abord la main d'amour de Dieu avant d'apporter le salut. Les deux manifestations de l'amour de Dieu. Et puis, voilà, elle est restée, ça fait maintenant plus de 20 ans, pas 2 jours, 2 semaines ou 2 ans, plus de 20 ans. Et voilà, Dieu a béni son ministère. Il y a une école de laborantine, il y a un home orphelinat et une église naissante dans une région, dans une vallée qui s'appelle le Mustang. Vous pouvez, voilà, on peut chercher tous les appels missionnaires. Ils sont un peu de ce type-là, une phase de préparation, un investissement, et puis ensuite beaucoup, beaucoup de temps. Ça demande un groupe de soutien. Ça demande d'accepter une certaine solitude, d'abandonner des amis, d'abandonner une forme de carrière ici, sans compter les risques. Le nombre de missionnaires morts de maladies tropicales est vraiment très élevé. Eh bien, en fait... Vous enlevez missionnaire, vous remplacez par missionnel. Vous enlevez une personne qui a un appel spécial, vous remplacez par mon église locale. Et en fait, il n'y a qu'à faire la même chose. Pour être une église missionnelle, il faut se préparer, étudier. Je vais revenir là-dessus. Parce que si on regarde un petit peu le fonctionnement de nos églises, et je ne parle pas spécialement de Nyon, heureusement, c'est quand même relativement général, ça vient aussi un petit peu de notre histoire, du fait qu'on était une société chrétienne, nous essayons d'attirer les gens chez nous. Nous pensons aux non-chrétiens, nous prions pour eux, nous essayons de les attirer vers le salut, et nous finissons par essayer de les attirer chez nous. On fait des cultes d'évangélisation. On organise Alpha Live. On distribue dans les boîtes aux lettres des papillons d'invitation pour une soirée souper cinéma ou des choses comme ça. Et finalement, les résultats sont quand même mitigés, on a vu. 10-15% de l'Europe est chrétienne. Imaginez le missionnaire qui construit une église et met une affiche sur la porte dans son village quelque part au Congo, culte dimanche à 10h. Venez, chers Congolais. L'échec est assuré. Alors nous essayons d'être plus actifs. Nous allons essayer de distribuer des bibles au marché. Ou je me rappelle quand il y avait encore la fête des vendanges à Morges, on avait monté une sorte d'opération nez rouge pour essayer de ramener des gens qui avaient peut-être un peu trop profité des fruits de la vigne chez eux le soir, peut-être créer des contacts. C'est bien, c'est sympathique, il y avait un effort, c'est pas rien. Mais on ne peut pas dire que globalement ça fonctionne. Nos églises ont aussi tendance à devenir un petit peu des clubs d'activités pour initier. Bon, ça fait 30 ans que je suis à l'AFRE, c'est vrai que parfois j'ai encore l'impression que n'étant pas cousin ni avec des Cholets, ni avec des Crétenis, ni avec des Morais, je ne comprends pas encore tout. Et ce côté club d'activité pour initier, c'est très positif. C'est un de nos points forts. Mais est-ce qu'on pourrait faire un club d'activité pour inviter plutôt que pour initier? Je vais essayer d'illustrer un petit peu encore plus concrètement comment on peut essayer de devenir plus église missionnelle pour mieux répondre à la mission que Jésus-Christ nous donne dans notre réalité actuelle et pas dans notre réalité d'il y a 50 ans. c'est pas il y a 50 ans, mais il y a 500 ans, Luther a eu un appel. Dans sa réalité à lui, une énorme partie de la population en Europe, on était en pleine Renaissance, avait besoin de la certitude du salut sans intermédiaire. On n'était plus dans le Moyen-Âge, les gens ne se satisfaisaient plus d'avoir une église, des curés qui leur expliquent comment, ce que faire pour être sauvés. Ils voulaient cette assurance du salut personnel. Donc Luther, il a répondu aux besoins de son époque avec l'appel que Dieu lui donnait et les moyens qu'il avait, traduire la Bible en allemand et donner à la population l'assurance du salut sans intermédiaire. Ça a assez bien fonctionné, je ne sais pas combien il y a eu de millions de convertis. S'il revenait aujourd'hui pour faire la même chose, ou si vous essayez de traduire la Bible en allemand aujourd'hui pour amener le salut, la preuve du salut sans intermédiaire, je ne pense pas que vous allez faire 5 millions de convertis. Ce n'est plus les besoins actuels de notre population. Cet appel d'église missionnelle, c'est bien un appel pour l'église, pas pour l'individu. L'individu peut avoir son appel, certains continueront à être appelés pour aller au Népal comme missionnaire. Mais la plupart d'entre nous avons une famille, un travail, des engagements, donner du bénévolat, être témoin aussi bien qu'on le peut, c'est déjà pas mal pour beaucoup d'entre nous. L'église locale, elle a plus de possibilités, parce qu'elle peut fédérer nos différentes énergies, nos différents temps, nos différents niveaux, ce que nous pouvons chacun mettre à disposition qui n'est pas très grand, pour en faire quelque chose de nettement plus percutant. Donc essayons, dans nos églises locales, d'incarner notre mission avec le même sérieux que le missionnaire qui part 20 ans. Public cible. Si on veut être missionnel, si on veut avoir un impact sur la société et pas juste convaincre quelques fils de chrétiens de ne pas abandonner la foi et prendre deux, trois chrétiens de l'église d'à côté, quelle couche sociale voulons-nous aborder? Quelle tranche d'âge? Ici à Nyon, je pense que si vous visez les paysans vaudois du Gros de Vaud, vous n'allez pas aller très loin. Même les vignerons, je ne sais pas s'il y en a encore assez pour remplir la salle. Si on pense à Nyon, un cercle de 3 km autour de votre église, les expatriés anglophones, il y en a beaucoup. Mais vous avez une autre église qui se réunit ici, qui a manifestement cette légitimité-là. Donc, certainement que c'est autre chose. 3 km autour de votre église, qu'y a-t-il? Où est-ce que vous auriez une légitimité pour être missionnel? Le missionnaire, après avoir défini où il va et pour quel but, pour quelle population, pour quelle couche, il y a cet aspect de formation, de préparation. Sommes-nous crédibles? Avons-nous le niveau requis dans ce monde qui est quand même, dans beaucoup de choses, de haute qualité? Si on parle communication, un flyer avec 3 fautes d'orthographe mises dans les boîtes aux lettres, le niveau de crédibilité, il est à peu près nul. En dessous de la vidéo sur Facebook, il n'y a pas d'espoir. Donc, est-ce qu'on est au niveau d'exigence qui nous permet d'être crédible? Je dis souvent, soit il faut faire les choses bien, soit il ne faut pas les faire. Accessoirement, ça tend à réduire un petit peu le problème de nos priorités d'église, où on est très fort pour toujours rajouter des priorités, mais très faible pour en supprimer des anciennes. Et puis, quelles sont les attentes? De nouveau, au Népal, l'attente de la population, c'est d'avoir de l'aide sur un plan médical qui permet de voir que quelqu'un s'intéresse à eux, qu'ils ont une valeur, nous on sait, aux yeux du Christ, et qui peut les intéresser, les amener à aller plus loin. Quelles sont les attentes, les besoins de ces personnes auprès desquelles nous voulons être missionnels? Dans les problèmes les plus fréquents de notre société, il y a le problème des familles, on dit recomposées, on ferait mieux de dire décomposées. L'individualisme dans la société, la solitude. Et que pouvons-nous amener? Peut-être sur le plan de la santé. Peut-être que... Non, on n'a pas besoin de fonder des hôpitaux ou des écoles de laborantine. Ça, c'est pas pertinent. Mais malgré tout, les problèmes de santé avec en plus la solitude, sont importants. Les gens ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin compris pour eux, ils ont peut-être besoin d'être guéris, pourquoi pas avoir des activités dans ce domaine-là qui soient pertinentes pour les gens auxquels nous voulons apporter le salut. Si je prends un autre exemple, si, ici, certainement comme autour de Lenay, vous allez, en analysant la population, voir qu'il y a 30 ou 40% d'étrangers, dont beaucoup de personnes qui ont des problèmes, qui sont réfugiés ou qui ont des problèmes d'intégration sur le monde du travail. On pourrait imaginer qu'un chef d'entreprise, à la place de mettre son bénévolat comme moniteur d'école du dimanche ou que sais-je, crée dans son entreprise 2-3 postes destinés à intégrer des gens qui sont en contact avec l'Église et qui ont besoin d'être aidés pour prendre pied sur le monde du travail. Mais ce chef d'entreprise, il ne peut pas mettre en danger son entreprise pour cela. Créer 3-4 postes, c'est facile à dire, mais il faut l'assumer. Peut-être que d'autres personnes dans l'Église pourraient être appelées à mettre leur bénévolat en allant, je ne sais pas, un demi-jour par semaine, encadrer ces 2-3 personnes en phase d'intégration professionnelle pour que ça ne coûte pas trop cher et que ça ne coule pas, cet effort ne coule pas à l'entreprise. Et puis l'Église, elle va peut-être être appelée, plutôt que d'avoir des groupes de prière entre amis proches le jeudi soir où on prie les uns pour les autres, c'est très bien, mais peut-être qu'un groupe devrait plutôt être là pour soutenir, prier, avoir des échanges entre personnes qui sont impliquées dans cette intégration de personnes en difficulté. Voilà, c'est un exemple que j'ai un tout petit peu partagé, mais c'est ça être missionnel. Si j'étais appelé à aller au Népal, qu'est-ce que j'aurais fait et qu'est-ce qui m'empêche en tant qu'Église de faire la même chose ici? Quel rôle pour chacun? On a souvent entendu parler de l'évangélisation par l'amitié. Enfin, c'est vrai, le contact individuel, au final, c'est le meilleur moyen d'être crédible et de dire ce qui pour moi est important et m'a donné le salut, c'est le contact avec Jésus-Christ. Et c'est plus facile à dire à quelqu'un avec qui on est en confiance qu'à proclamer au marché en distribuant des Bibles. Et là, peut-être, ce point-là, je pense, reste central, mais l'Église peut certainement encadrer, motiver, donner des pistes pour être pour faciliter ce rôle individuel. Je voulais encore donner, mais bon, j'ai pas encore de regard rouge de Chloé. Si chacun d'entre nous jouant un rôle pour convertir, pour amener au salut une personne pendant notre vie, mais globalement l'Église va rester au même niveau, c'est déjà pas mal. Donc faut en viser au moins 2. Ça fait un tous les 40 ans. Ça devrait être possible. Une phrase sur la problématique de la barrière à l'entrée. Si on ne vise pas les 3-4% d'évangéliques ou de gens qui sont proches, mais quelqu'un qui réellement ne connaît rien, là-bas, il faut qu'on travaille sur notre capacité d'accueil, d'être compréhensif, de même que le pasteur au Congo ne va pas utiliser de l'accent vaudois. Nous devons parler le langage que les gens comprennent, les accueillir d'une manière qui leur permet de franchir la porte. Essayons parfois de nous imaginer, si on n'était pas dans le moule, quels seraient les points quand on franchit la porte qui nous font peur ou qui nous donnent confiance. Et puis, les priorités, je l'ai déjà évoqué, on ne peut pas tout faire. Faut peut-être renoncer à certaines activités qui finalement nous font surtout du bien à nous, même si ce n'est pas négligeable, pour pouvoir se concentrer sur des activités qui font peut-être du bien aux autres et qui sont plus proches de notre appel missionnel. On va voir une vidéo sur un exemple de l'église de Vevey, l'église Frey de Vevey, une activité toute concrète pendant environ une minute. Voilà un exemple d'une église qui a une activité où elle s'adapte, où elle est active, où elle va plutôt que de faire venir, où elle donne un moyen à ses membres de s'impliquer dans la vie réelle. Entre parenthèses, il y a un joli sujet missionnel à Vevey, si vous voyez où est l'église, pour ceux qui le savent, qui ne doit pas être si différent ici d'ailleurs. L'église est juste en face de terrain de foot, activité populaire par essence, et ensuite vous avez toute une énorme série d'immeubles d'immeubles locatifs, donc une population populaire, probablement à forte concentration d'immigrés. L'église de la Passerelle, par contre, avec beaucoup de chrétiens, enfin la plupart des membres, habitent dans les villages huppés de la périphérie, de la Riviera. Est-ce que, pour être missionnel, il faudrait qu'un certain nombre de familles déménagent dans les immeubles ? Est-ce que, pour être missionnel, il faut trouver, il faut travailler sur l'aspiration de cette classe populaire qui est à 300 mètres d'eux, cette classe populaire qui aspire à mieux ? Peut-être que c'est une piste. Ou est-ce que l'aspect missionnel, c'est de s'occuper de leurs voisins dans les villages, parce que là, ils sont crédibles et ils ont une légitimité ? Aucune idée, mais c'est un joli sujet. Si vous voulez vous empêcher de dormir ce soir, essayez d'y réfléchir. De quelle manière, quel est le public cible ou être missionnel? Donc, être une église missionnelle, c'est fédérer les différentes énergies, possibilités, potentielles des membres de l'église autour de cette mission principale que nous a donnée le Christ, faire de toutes les nations des disciples. Et la Frée, dans tout ça, puisqu'on est quand même là pour les 10 ans de la Frée, en fait, elle a le même rôle. C'est pour ça que je ne vous ai pas expliqué comment elle fonctionne, je ne sais pas quoi, c'est vite casse-pied. De même que le membre, il doit être aidé par son Église pour donner quelque chose de plus fort, de plus missionnel, qu'il ne pourrait pas faire seul. De même, la Frée, elle a l'ambition, j'espère pas l'illusion, mais l'ambition de permettre aux églises locales d'être meilleures, de mettre des choses en commun, de mieux se former, de mieux comprendre, d'avoir plus de force ensemble que seul, toujours dans ce seul but d'apporter l'Évangile à nos semblables. Et Philippe Tuller, notre secrétaire général, va vous l'expliquer dans la dernière vidéo, bien mieux que je ne le ferai, sur quel axe la Frée essaye de se concentrer par rapport à cette mission donnée par le Christ. Je transmettrai vos applaudissements à Philippe. Et en conclusion, j'aimerais simplement redire, le monde, la population, les attentes individuelles ont changé, mais notre mission prioritaire reste la même depuis Abraham, puis Jésus-Christ. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et pour cela, il ne suffit plus d'envoyer des missionnaires, il faut que nos églises deviennent elles-mêmes missionnelles. Que Dieu vous bénisse.